RFI, grand reportage, Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Tous les jours, 300 Honduriens quittent leur pays à la recherche d'une vie meilleure en direction des États-Unis. Certains font le choix de partir en groupe, ce sont les fameuses caravanes, pour éviter les dangers qui les attendent sur la route. Pour comprendre ce flux migratoire, RFI vous propose deux grands reportages. Le premier, aujourd'hui, est consacré à la violence généralisée qui gangrène le Honduras. Ce pays, situé en Amérique centrale, est l'un des plus dangereux au monde, en raison notamment de l'activité des maras, les gangs qui contrôlent surtout les zones urbaines. Leur principale source de financement, c'est le racket de la population. Les Honduriens l'appellent le pisto ou l'impôt de guerre. Un modèle économique mafieux qui profite aussi aux autorités. Honduras, vivre là où règnent les gangs, c'est un grand reportage de Marie Normand dans la région de San Pedro Sula, la capitale économique et la ville la plus meurtrière du pays. À la réalisation, Pierre Chaffanjon.
Quiere taxi, madre? Taxi, quiere? Si.
Ici, ils demandent à tout le monde le pisto. Ça fait 10 ans qu'on paye cet impôt de guerre pour travailler ici, devant l'aéroport. 10 ans qu'on le paye. On paye 200 lempiras, 4 dollars par semaine. Et puis il y a deux gangs, on paye les deux, la 13 et la 18.
La 13 et la 18, abréviation du MS-13 et du Barrio 18, les deux principaux maras, les gangs de rue du Honduras. En tout, 25 000 membres, selon la police nationale. Surtout des enfants et des adolescents. Des gangs qui dépendent financièrement des extorsions. Leur première source de revenus, le racket des différents acteurs du transport, les coopératives de bus et les taxis comme celui-ci.
Je paye le premier gang par exemple le lundi et l'autre le vendredi. Regarde, j'ai leur numéro, donc je ne ramène presque pas d'argent à la maison. Mais ici, tu peux tuer beaucoup de gens sans que personne n'enquête. Donc pour protéger notre vie, on doit toujours payer. Beaucoup de mes amis sont morts.
Para cuidar nuestra vida tenemos que pagar siempre. Varios amigos ya han muerto.
Un racket qui est loin de se limiter à ce secteur d'activité.
Hotel Boutique La Cordillera, muy buenos días. Les saludarlo, en qué puedo ayudarle?
Je m'appelle Arlon Bueso, je suis chargé de la réception. Cette zone est bien, plus urbaine, plus tranquille. C'est une zone hôtelière.
Una zona hotelera. Es peligroso en ciertas zonas.
C'est dangereux dans certaines zones. Moi-même, avant, je vivais dans un quartier appelé Planeta. Je suis venu vivre de ce côté-ci de la ville pour plus de sécurité. Parce qu'en sortant du travail à 23h, j'arrivais là-bas vers 23h40. Et entrer dans ce quartier à cette heure-là, c'est plutôt compliqué, même quand on y vit.
Et vous aussi, dans cet hôtel, vous payez le pisto, cet impôt de guerre ?
Je ne peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, mais il y a presque un cinquième des entreprises qui le payent. Il y a des gens du gouvernement qui sont impliqués, qui reçoivent leur part. Des gens de la police, du gouvernement. C'est pour ça que personne ne fait rien contre. L'extorsion va continuer. La pauvreté est un business. Et les petites entreprises sont assez affectées. C'est pour cela qu'entreprendre est très difficile. Si le commerce en question ne permet pas de financer l'extorsion, ce que font ces commerçants, c'est qu'ils essayent un mois ou deux pour voir s'ils arrivent à gagner suffisamment d'argent pour eux et pour le racket. Sinon, ils ferment.
Quand ces petits commerçants ne peuvent plus ou ne veulent plus payer, partir est la seule solution. C'est l'histoire de Luis. Il nous a demandé de changer son nom pour garantir son anonymat. Nous l'avons rencontré mi-janvier, longeant à 5h du matin, la principale avenue de San Pedro Sula. Il a quitté la capitale économique du Honduras avec une caravane de migrants, direction les États-Unis.
J'avais mon propre commerce. Et depuis le mois de septembre, on a commencé à être racketté. Ici, au Honduras, c'est normal de payer. Parce que si tu ne payes pas, ils menacent de tuer ta famille et tout ça.
Luis marche aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Marco, 13 ans, tient la main de sa petite sœur qui patauge dans les flaques, ses baskets Mickey aux pieds.
Je suis content, je veux aller étudier.
On leur a dit que ce ne serait pas une marche facile, que rien ne serait facile. Dans leur sac, ils ont leur manteau, des vêtements pour se changer au cours du voyage. Non, on n'a pas emmené à manger. On espère que les gens sur la route seront solidaires.
Par
Fin décembre, on a commencé à voir des messages sur les réseaux sociaux disant qu'une caravane partait le 15 janvier. Alors on s'est préparé en conséquence. Mentalement déjà, parce que pour ceux qui décident de marcher, comme ça, laisser tout derrière soi dans ce pays, c'est compliqué. Parce qu'on laisse derrière nous le reste de la famille.
Cette famille qui reste, nous sommes allés la rencontrer à El Progreso, à une trentaine de minutes environ de San Pedro Sula. C'est José qui nous accueille. Il nous conduit jusqu'à l'ancien domicile de son frère et son épouse, au bout d'une route cabossée.
Pour commencer, l'épouse de mon frère a fait des études pour devenir infirmière. Elle a travaillé à l'hôpital public d'El Progreso. Ils lui ont toujours fait croire qu'ils allaient lui donner un poste. Et finalement, ils lui ont dit que non. Ils allaient devoir se passer d'elle, parce que le gouvernement n'avait pas ouvert de poste. Ce gouvernement usurpateur a mis en place des politiques néolibérales de réduction des coûts dans le secteur de la santé. Ma belle-sœur s'est retrouvée sans travail.
Le président Juan Orlando Hernández a été réélu fin 2017 à l'issue d'un scrutin entaché de nombreuses irrégularités. Il est régulièrement critiqué pour sa gestion des services publics.
Toute l'année dernière, la famille était donc dépendante des revenus de son épicerie. Et puis, fin décembre, mon frère a commencé à me dire que des gens étaient venus le voir. Ils ont exigé, sous la menace, qu'il commence à payer un impôt de guerre de 100 lempiras, $40 par semaine pour son épicerie, une petite épicerie. Mais ce n'était pas une épicerie qui faisait beaucoup d'argent, qui permettait de soutenir cette bande. Donc mon frère a décidé de la fermer et de quitter le pays. C'est l'histoire de ce qu'est en train de vivre notre famille au Honduras. On est en danger dans notre propre maison, alors autant courir un risque en marchant jusqu'aux États-Unis. Voilà, on est arrivé là où vivait mon frère avec sa femme et ses enfants. Ce sont les premiers de la famille à partir. Ce n'est pas facile. Je les ai accompagnés à la gare routière ce matin et c'est difficile. Voir ces deux petits marcher comme ça. Passez devant, voilà. C'était leur épicerie. Elle, c'est la grand-mère.
C'est dur pour moi. Ma fille est une combattante. Je lui ai toujours enseigné ces valeurs-là. Elle n'a rien voulu me dire pour ne pas m'inquiéter. Mais un jour, j'étais en train de discuter avec mes neveux quand soudain, j'ai entendu une voiture se garer devant chez nous. C'était ma fille. Et après sont arrivés deux hommes à moto. Ils ont commencé à discuter, à lui demander de l'argent. Et elle a dit, je ne peux pas vous en donner. Je n'en ai pas. On savait qu'on était en danger. Et donc ils sont partis. Ce n'est pas la seule épicerie à avoir fermé. Il y a beaucoup d'épiceries qui ont fermé dans toute la zone rurale d'El Progreso.
Et comment vous prévoyez de garder contact avec votre famille ?
Par téléphone portable. Ils ont pris une photo d'eux tout à l'heure en train de se reposer. On voit ma fille et ma petite fille qui est en train de pleurer. Je sais que pour elle, c'est très dur. Pour les quatre, c'est très dur. Parce qu'ils avaient leur maison, ils vivaient bien. Pour des pauvres, ils vivaient bien.
Dans cette maison, tout est resté figé. Des vêtements d'enfants sèchent encore sur un fil dehors. Le sapin de Noël trône toujours dans un coin du salon.
Il est resté tout seul. Je vais le prendre avec moi.
On a l'impression, en regardant cette maison, qu'ils sont partis très vite.
Pues ellos cuentan con nosotros, la familia que nos quedamos aquí.
En fait, ils comptent sur nous, la famille qui reste. On a parlé à un cousin qui est plus jeune, qui loue une maison pas très loin. On lui a dit qu'une fois que mon frère et sa famille seraient aux États-Unis, cette maison lui reviendrait. C'est pour l'aider et puis ça nous aide aussi à occuper la maison. C'est mieux que la maison reste dans cet état. Ça donne l'impression qu'ils vont revenir.
L'impression de que comme que van a regresar.
occuper la maison à tout prix pour éviter que les gangs ne se l'approprient. José est instituteur en école primaire, des établissements qui ne sont pas épargnés.
À l'école, le problème, c'est qu'ils recrutent des enfants. Et pour être tout à fait honnête, en raison de la situation que connaît le pays, beaucoup d'enfants meurent d'envie de faire partie de ces gangs. Il y a quelques années, un de mes anciens élèves s'est fait torturer et assassiner. Son frère aussi. Parce que, selon le gang, il avait commis une erreur. En général, le père et la mère de ses élèves sont partis aux États-Unis. Et donc, avec qui reste-t-il? Avec un oncle ou des grands-parents beaucoup moins stricts? Des enfants sans parents. C'est ça le Honduras aujourd'hui.
Une ONG norvégienne calcule qu'un enfant par foyer en moyenne est déscolarisé dans les quartiers les plus difficiles. Au Honduras, 64% de la population vit sous le seuil de pauvreté, d'après la Banque mondiale. Pour asseoir leur contrôle, les gangs infiltrent le cœur des établissements scolaires, influencent les décisions des directeurs et des enseignants. Nous nous rendons, avec l'aide d'une journaliste locale, à Rivera Hernandez, une localité en périphérie de San Pedro Sula, totalement gangrénée par les gangs de rue. Le long des routes poussiéreuses, les voitures sans plaque d'immatriculation côtoient parfois des carrioles tirées par des chevaux. Alors là, vous venez de tourner dans une rue et brusquement, vous avez ouvert les fenêtres de la voiture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Parce que dans certains quartiers contrôlés par les gangs, les personnes qui surveillent vérifient qu'il n'y a aucune voiture suspecte. Et une voiture qui a des vitres teintées et fermées, c'est suspect, parce qu'ils ne savent pas qui entre dans le quartier. Donc si on baisse les vitres, ça crée une certaine confiance. Ça montre qu'on n'est pas de la police, qu'on n'est pas quelqu'un qui ne soit pas le bienvenu dans ce territoire.
Au moins 7 bandes différentes se battent rue par rue pour le contrôle de ce secteur. Pas de barrage ni d'autres signes distinctifs, mais chacun sait sur quel trottoir il peut marcher. Ici, les assassinats, les kidnappings, les violences sexuelles sont monnaie courante. Une violence généralisée qui affecte particulièrement les mineurs. Kimberly fréquente depuis plusieurs années Children International, l'une des rares ONG à se faire respecter ici.
Ça m'a beaucoup aidé parce que à 20 ans, je ne suis pas enceinte et je n'ai pas non plus rejoint un gang. Les gangs utilisent davantage les enfants parce que comme ils sont petits, la police ne les suspecte pas.
À partir de quel âge les enfants courent-ils un risque dans la rue aujourd'hui, dans ce quartier ?
Dans ce quartier ? À partir de 5, 6 ans, j'ai déjà vu un enfant de 4 ans prévenir. Hé, la police arrive, la police arrive. On les appelle les drapeaux, ce sont ceux qui restent dans les coins et qui surveillent que la police n'arrive pas. Dans cette ONG, ils essayent de faire en sorte que les enfants et les jeunes restent à l'intérieur du centre, s'occupent avec des activités et qu'ils ne soient pas dans la rue.
Kimberly fait une pause, elle nous fait remarquer la présence d'un enfant un peu plus loin, à côté d'une balançoire. Elle le reconnaît et assure que c'est un membre du gang MS-13. L'enfant semble surveiller les allées et venues des visiteurs. Il n'a même pas 10 ans.
J'ai des amis qui sont dans des gangs. Certains sont morts. En fait, quasiment tous mes camarades de classe sont morts. Et c'est très difficile.
Et où tu te vois dans 5 ans ?
Dans 5 ans, j'aimerais être diplômée de l'université et peut-être ouvrir ma propre entreprise. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici 5 ans. On pourrait aussi être mort. Parce qu'ici, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas ce qui va nous arriver quand on prend le bus à cause de l'insécurité qu'il y a ici. On vit vraiment au milieu de frontières invisibles. Les gens de là-bas ne peuvent pas venir ici. Et nous, on ne peut pas aller là-bas. Et on marche avec la peur au ventre.
Pour venir dans la cour de cette ONG, comme pour aller à l'université, Kimberly doit traverser le territoire de 2 gangs rivaux.
Je m'appelle Gustavo Cardoza, je suis chercheur et membre de l'Institut jésuite Eric. Je me rappelle d'une femme, une ouvrière d'une usine d'assemblage de la Rivera Hernandez. Elle ne pouvait pas rendre visite à sa mère, qui vivait pourtant à 2 rues d'elle, parce qu'un gang contrôlait sa rue et un autre gang la rue de sa mère. Donc, pour lui faire parvenir de l'argent, elle devait faire des transferts via une entreprise. Ce type de situation mène à la rupture du lien social, au sein des familles même. Ces gangs frappent directement la vie quotidienne de la population.
Le principal commissariat de police de Rivera Hernandez se situe à quelques centaines de mètres d'ici.
Ici, c'est le bureau où on nous fait remonter toutes les données de nos policiers sur le terrain. Et ça, ce sont nos évaluations.
Et les évaluations sont plutôt bonnes cette année. L'unité du commissaire Serrano est remontée dans le classement national.
Entre 2014
et aujourd'hui, ici à Rivera Hernandez, on a observé une baisse de 68% des homicides. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. La police nationale est l'institution la plus transparente de l'État
hondurien.
Pourtant, loin des statistiques, l'insécurité est toujours l'une des premières causes de départ des Honduriens. Sally Valladores est à la tête de l'Observatoire des migrations de la Faculté latino-américaine des sciences sociales.
La violence, ce n'est pas juste le nombre de morts. C'est la soumission de la population à la criminalité. Et ça ne peut pas se chiffrer. Plus de 90% des affaires qui sont portées à la connaissance des autorités ne font l'objet d'aucune enquête. C'est un pays dans lequel de plus en plus de dirigeants politiques et de fonctionnaires sont impliqués dans des affaires de corruption. Un pays dans lequel les structures criminelles sont liées au pouvoir. Tout est réuni pour que le Honduras continue à produire des migrants.
Il existe pourtant une force spéciale, la Force nationale anti-maras, créée en 2013 pour lutter contre les activités criminelles de ces gangs. Elle présente régulièrement ses dernières prises devant les caméras, comme aujourd'hui. Un homme menotté est hissé à l'arrière d'un pick-up. La routine, explique sourire en coin Kevin Mejía, un photographe du journal local El País.
Ça, ce sont les preuves. Ça, c'est censé être de la marijuana. Et ça, l'argent issu du racket. Lui, c'est le porte-parole de la force anti-extorsion. C'est pour ça qu'il est encagoulé, pour rester anonyme.
Ce porte-parole consent qu'une grande partie de la population hondurienne est toujours victime des gangs, notamment de l'extorsion.
Il reste encore beaucoup à faire, mais pour qu'on puisse travailler correctement, nous avons aussi besoin du soutien de la population. C'est un travail conjoint.
Sauf que les victimes n'ont pas confiance. Toutes celles que nous avons rencontrées dénoncent la complicité de la police, comme Marta par exemple, dont la fille, victime de racket, a décidé de quitter le pays avec ses enfants.
Les autorités ici connaissent le problème. Ils permettent tout ça. Quand on porte plainte, qu'est-ce qui se passe? La même police s'occupe de prévenir les responsables d'extorsion. Hé, ils sont venus porter plainte. Donc tu ne peux pas avoir confiance en qui que ce soit.
Une situation que déplore le directeur de la chambre de commerce de San Pedro Sula. Pour Pedro Barquero, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Les grandes entreprises ont d'une manière ou d'une autre les ressources nécessaires pour assurer leur sécurité et contrôler ce type de désagrément. Mais les petites et les micro-entreprises n'ont pas les moyens de s'en sortir. Cela aussi a un impact sur la productivité, parce qu'une personne victime de violence ne va pas être aussi productive qu'une personne qui ne l'est pas. Donc si c'est toute une population qui est préoccupée par des problèmes de sécurité, vous avez une population moins productive. Tout cela affecte la compétitivité du pays.
Au-delà de la complicité de la police, plusieurs membres de la société civile dénoncent l'implication directe des autorités jusqu'au sommet de l'État. Des individus qualifiés d'intouchables. Nous avons posé la question au patron de la force anti-gang, qui ne donne pas son nom pour des raisons de sécurité.
Si quelqu'un, quelle que soit sa classe sociale, se trouve impliqué ou a ne serait-ce que le moindre lien avec ces organisations criminelles, nous enquêterons. Et je peux vous dire avec une quasi-certitude que cela se terminera par une procédure judiciaire et que cet individu sera arrêté.
En attendant, Luis et sa famille ont poursuivi leur route. Ils sont maintenant arrivés au Mexique après avoir traversé le Guatemala.
Oui, on y va, vers le rêve américain. J'ai confiance que Dieu va nous aider à y arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver.
Dans une quinzaine de jours, une nouvelle caravane doit partir de San Pedro Sula. Honduras, vivre là où règnent les gangs, un grand reportage de Marie Normand, réalisation Pierre Chaffangeon.